Les sens de Théos. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. À tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. La ferme Les Sens de Théos produit et transforme des plantes aromatiques et médicinales. Ce sanctuaire au sommet d'une montagne est une terre d'accueil et de transmission. Pauline et Jean-Pascal entretiennent un lieu de vie et d'échange avec une dynamique participative. Ici, il s'agit d'inspirer par l'exemplarité, en montrant comment travailler avec la nature pour créer de façon durable une économie qui s'appuie sur un style de vie simple et résilient. Ensemble, dans cette émission, nous parlerons d'agriculture, d'accueil, de woofing, de transmission de savoir au travers des différents stages et ateliers qu'ils organisent. L'essence de Théos avec Jean-Pascal et Pauline, on est à quelle altitude là ?
On est à 1400 mètres dans les Hautes-Alpes, du coup tout en haut d'une petite montagne.
On est effectivement dans un milieu montagnard avec une vue complètement imprenable. En arrivant ici, on se dit mais qu'est-ce qui pousse aussi haut ? Parce que j'imagine qu'ici, une bonne partie de l'année, il y a de la neige.
On a de la chance d'avoir une belle diversité de plantes. On est entre deux climats, le climat méditerranéen et continental. Du coup, on a autant de la lavande que si on se déplace pas trop loin, on a des sapins blancs. Donc, ouais, on a une belle diversité autour de chez nous. Et c'est pour ça qu'on a monté une entreprise autour des plantes médicinales, parce que on trouvait ça intéressant justement, cette diversité, quoi.
Donc là, on est en train de faire un tour de France, hein, des écolieux, des oasis, des habitats participatifs. Donc il y a plein de mots, de termes, de lexiques différents pour identifier ce genre de lieux un peu différents où les gens font souvent le choix de vivre en fonction de leurs valeurs et mettre plus de sens au cœur de leur vie. Donc je vais m'intéresser un petit peu à ce qui se passe ici, le projet, et comment ça se fait que vous faites partie de ce réseau Oasis, comment la rencontre s'est faite, et quel est le lien entre la ferme, l'essence de Théos et le mouvement Oasis.
Alors, donc quand on a créé cette petite ferme, l'essence de Théos, on avait vraiment une éthique qui était présente derrière. On a cherché pendant longtemps à s'installer sur un lieu, on allait voir différentes communautés, et puis finalement, il y avait cette maison familiale qui était présente. Et on a dû passer aussi quelques étapes à se dire, bon, ben, si on peut s'installer dans un lieu qui a déjà une histoire et où il y a déjà des habitants, et finalement faire évoluer. Et on avait cette idée de créer une oasis, mais pour nous, c'était plutôt une oasis ressource où on était capable de travailler avec le vivant et en même temps créer une vie où on pouvait aussi vivre avec la société actuelle. Donc à la fois nous, en étant le plus autonome possible et en vivant avec finalement pas grand-chose, et montrer à la plupart, bon, on va dire à beaucoup de personnes, qu'avec pas grand-chose, on est très heureux et que c'est pas pour autant qu'on peut pas créer de l'économie. Et donc pour ça, ben, l'idée, c'est aussi de faire venir du monde à la ferme, autant sous forme de stagiaires, de woofers, et aussi sous forme d'ateliers et de formations. Et après, pour continuer la passion, ben, comme on travaille avec les plantes médicinales et aromatiques, l'idée, c'est aussi de créer des produits, d'être vraiment paysan, donc on a les mains dans la terre, et de proposer notre production à toutes les personnes potentiellement intéressées, quoi.
Mais Pauline disait, avant de choisir de s'installer ici, il y a eu quand même cette réflexion et faire un tour des différents lieux, des différentes communautés. À ce moment-là, quelle était l'idée ? Donc de trouver un autre endroit ou simplement s'inspirer par ce qui existait déjà ?
Il y avait déjà s'inspirer, c'est sûr, et l'envie de s'installer, de travailler, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de vivre avec la nature, quoi. De vivre, retrouver du lien, ce lien qu'on trouvait qu'on avait perdu par ce qu'on pouvait faire, qu'on n'avait pas des situations horribles de vie, mais il nous manquait un sens. Et en fait, on s'est rendu compte que le sens, c'était ce besoin de reconnexion avec la nature, quoi.
Quand on a cherché à s'installer, alors au début, on s'est ouvert à tout ce qui pouvait exister. Donc, c'est-à-dire soit des lieux en communauté. On était allé en Bretagne parce que justement, ils étaient en train d'acheter du terrain et c'était une opportunité pour nous de s'installer, accompagner dans un projet qui nous parlait avec des gens qui avaient une même éthique. Et après, des fermes où il fallait qu'on se lance que nous deux. Et on a fait plusieurs... En fait, à chaque fois, ça fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas, et on a quand même bien cherché pendant 2 ans. Et puis, en fait, ici, quand on a commencé à réfléchir à s'installer ici, il y a une petite maison qui s'est vendue juste à côté de la maison familiale. Et en fait, avec du terrain agricole, donc c'était quelque chose d'assez incroyable sur cette commune où il y a jamais rien qui se vend. Et en fait, tout s'est déroulé très facilement. Donc, on s'est dit finalement, c'est ici. Qu'on s'installe et on verra bien. Mais c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions, même sur le fait d'acheter la petite maison en plus de ce lieu de vie. Est-ce que... d'ailleurs, cette question, elle n'est pas encore réglée. Hein. Est-ce qu'on en fait un gîte? Est-ce que finalement, plus tard, on accueille des nouveaux associés? Est-ce qu'on la garde pour les woofers, les stagiaires? Ce qui est le cas actuellement. Voilà, c'est encore en réflexion par rapport à... On est une toute jeune oasis, on attaque notre 3e année nous on compte en termes d'années de production, disons, de vie avec la nature, plus qu'en année normale, mais c'est ça un peu.
Avec cette idée donc de générer un modèle économique à travers votre métier de paysan, à travers les plantes médicinales qui poussent ici, à travers les transformations dont certaines qu'on est en train de déguster là sur la table. Je vois du pain sylvestre, tu parlais d'élixir floral, donc à côté c'est un sirop de fleur de sureau. Donc il y avait vraiment, en arrivant dans ce lieu, cette envie de développer, tu parlais avant d'autonomie, donc de trouver le moyen qui vous permettait de vivre de ce que vous êtes et de ce que vous faites.
Oui, mais de vivre, alors en étant à la fois dans notre éthique et en même temps c'est aussi... En étant dans notre société, c'est ça qui est pas facile, je trouve, au jour d'aujourd'hui, c'est que la société, on va dire consumériste, nous convient pas. Et en même temps, être dans la négativité, ça fonctionne pas pour faire changer les personnes. Donc nous, on s'est plutôt dit, essayons-nous de vivre comme ça nous paraît être plus intéressant, et voir si c'est réalisable au niveau économique et au niveau qualité de vie. Et si on est heureux, peut-être que ça donnera encore plus envie aux autres de changer, de passer un cap, quoi. Il y a vraiment cette idée-là où, en fait, on habite quand même dans quelque chose qui est un pays qui est magnifique, et il faut juste le regarder. Après, le revers de la médaille, c'est qu'on voit aussi... nous, on est présents dans la nature tous les jours, donc tous les changements qui se passent, tous les dérèglements potentiels, on les voit, on est les premiers spectateurs, quoi. Donc à la fois, on est des personnes qui peuvent montrer la beauté, et on est aussi spectateur de toutes les conséquences qui se passent au jour d'aujourd'hui, quoi.
Par exemple ?
Les cueillettes, avant, il y avait des calendriers de récolte. On savait qu'on pouvait accueillir tel bourgeon à telle date, qu'il fallait pas semer avant les seins de glace. Toutes ces... tradition, tout ce qui était mis en place, en fait, n'existe plus. C'est la nature, elle fonctionne un peu comme elle peut, au jour le jour, un peu comme nous, en fait. Et c'est un peu déstabilisant quand on travaille avec elle, parce que on est obligé d'être dans l'observation, de vivre vraiment, de se dire aujourd'hui, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire avec elle, et pas regarder un calendrier et se dire c'est le 15 mai, je peux aller cueillir telle date, ce qui était possible avant. Avant, il y avait des choses très calées, c'était cyclique. Et là, il n'y a plus de cycle.
Tu utilisais au début de notre entretien le mot paysan. J'aime bien ce mot, cette notion de connaître son pays, alors qu'une époque, ce terme-là, paysan, était presque une insulte employée entre les enfants, fils de paysans, sales paysans. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de gens qui sont en lien avec leur terre, qui la comprennent pour pouvoir en tirer le meilleur.
Paysan, c'est aussi avoir ce contact avec la terre. Pour moi, c'est différent d'un exploitant agricole. On fait vraiment, pour nous, c'est important de dire paysan herboriste. En plus, c'est quelque chose qui parle dans la tête des personnes parce que le mot paysan boulanger, tout le monde comprend. Et bon, déjà, nous, herboristes, c'est un mot. Ils ont fait un métier qui est interdit, donc déjà c'est un peu compliqué. Mais pour expliquer le fait, disons, notre métier, notre quotidien, ben en fait, pour nous, paysans, on a les mains dans la terre et on cueille, on regarde, on observe et il n'y a pas d'autre mot en fait pour décrire. Donc voilà, pour nous, c'est paysan herboriste et c'est pas exploitant agricole, à part pour la MSA parce qu'on n'a pas le choix, mais sinon, voilà.
Herboriste, c'est quoi aujourd'hui? Tu disais la profession est interdite.
Il y a beaucoup de politique derrière le mot herboriste. En France, herboriste, c'est un peu. Il y a différents types d'herboristes parce qu'il y a aussi les herboristes de comptoir. C'est ceux, par exemple, c'est un peu comme une pharmacie, mais qui travaillerait avec plutôt des plantes ou des produits naturels. Nous, on dit donc paysan herboriste parce qu'on a le côté production, création, transformation des plantes depuis le début, depuis la terre. Et herboriste, c'est qu'en fait, on propose, nous, par exemple, on travaille avec une centaine de plantes différentes. Donc, autant en cueillette et en culture, et il y a la connaissance qui va avec la plante. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste cueillir une plante sans s'intéresser à son histoire. Et donc, on va connaître ses vertus, on n'est pas médecin. On ne fait pas de diagnostic, mais par contre, si on est quand même, on a la connaissance de savoir quelle plante va aider à mieux dormir, à mieux digérer, à ce genre de choses. On est dans la tradition, les usages populaires, et c'est un peu ça le métier d'herboriste.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
Tu me parlais d'autonomie avant. Quelle est ta vision de l'autonomie et comment est-ce qu'on fait pour tendre vers cette utopie ?
Pour moi, c'est reprendre ce qu'on nous a un petit peu, entre guillemets, volé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous pousse un peu à consommer. Du coup, aller dans les grands temples de la consommation, trouve tout ce qu'on veut dans les supermarchés, tout ça. Et nous, après, ça passe par plein de petites choses. On va essayer de faire nos savons si on a le temps. On va faire notre propre dentifrice. On utilise pour ça tout ce que la nature peut nous offrir, sans surcueillir, en faisant attention à ce qu'on fait, en étant conscient de ce qu'on fait. Et voilà, pour moi, l'autonomie, ça passe par réapprendre des choses qu'on a perdues. Et savoir que... après, nous, on est plein dedans avec les plantes médicinales, donc on a cette chance-là d'accumuler les connaissances et de se dire, on peut utiliser telle ou telle plante pour faire un shampoing, pour faire de la lessive, pour faire... c'est tout un ensemble qui fait qu'on réapprend à utiliser des choses simplement pour vivre simplement.
C'est un peu mélangé, mais par exemple, nous, on va préférer faucher avec une faux qu'avec une débroussailleuse. Parce que c'est pareil, c'est un geste. Après, on aime bien ce côté patrimoine, savoir-faire qui se transmettait de génération en génération, et beaucoup de savoirs oraux ou pratiques, quoi, qui ne sont pas forcément décrits dans des livres. Mais c'est aussi, forcément, ça passe aussi par le potager, les légumes, tout ça. Mais c'est un ensemble, c'est vraiment réfléchir au lieu de se dire, j'ai besoin de ça, je vais aller chercher en supermarché. C'est se dire, est-ce que je suis pas capable de le faire moi-même? Ou comment ça se passe pour faire? Ou si je suis pas capable, est-ce que je peux pas l'échanger avec d'autres artisans? Typiquement, des chaussures en cuir, dès que tu te poses une question sur le moindre sujet, tu te rends compte qu'il y a du boulot et qu'on se fait très vite avoir actuellement et qu'on aime bien ce côté échange. Quand on n'arrive pas à faire nous-mêmes, on essaye d'échanger avec d'autres artisans.
Et du coup, moi, ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'on réapprend ces gestes, parce que servir d'une faux, il y a toute une... il y a plein de choses qui se passent autour de ça. Il faut apprendre à aiguiser sa faux, à la marteler comme il faut, tout ça, parce que ben sinon on se casse le dos et puis à avoir une certaine efficacité, parce qu'on évite de prendre la débroussailleuse, donc on veut quand même être efficace avec une faux. Et voilà, dans tous les domaines, il y a cette idée-là. Et j'aime bien aussi l'idée des chaussures en cuir, parce que c'est vrai que c'est acheter une paire de chaussures, bah c'est pas si anodin, quoi. On sait pas comment elle est fabriquée, on sait pas d'où ça vient. Et si on a une personne qui va dire, eh ben c'est du cuir qui est tanné dans les Pyrénées, tannage végétal, donc on n'a pas utilisé de produits chimiques pour le tannage et ce genre de choses, eh ben c'est des petites choses qu'on réapprend, quoi. Et c'est tout cet ensemble-là, quand on parle d'autonomie, c'est vraiment à sens très large, quoi. Et c'est réapprendre à savoir ce qu'on peut se mettre sur la peau, en cosmétique, ce qu'on peut utiliser comme savon, comme toutes ces choses-là, quoi. Et ça, c'est un univers assez... Enfin, ouais, c'est
après,
assez large,
ça
quoi.
Ça veut pas dire qu'on est que sur des savoirs ancestraux. Parce que, je veux dire, on utilise aussi, justement, ce qu'on a découvert actuellement. On a quand même Internet. Il y a quand même des choses incroyables qui se passent au jour d'aujourd'hui. Et on passe pas à côté, quoi. Mais c'est juste de pas oublier aussi d'où on vient et de pas réinventer tout, parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on faisait qui étaient logiques et c'est juste que je prends le cas d'un exemple, mais juste le médecin qui arrivait. En fait, avec une certaine connaissance, ben, ça fait que tous les savoirs populaires qui se transmettaient, ben, en fait, ils ont disparu parce que c'était le médecin qui avait une posture de sachant et que ben, les petites vieilles qui avaient leurs remèdes, ben, du coup, ça avait beaucoup de moins de valeur. Et maintenant, on y revient. Et donc, c'est un peu, voilà, de garder ce côté connaissance qu'on a et que, ben, voilà, que ça serait dommage de perdre. Et en même temps, s'appuyer sur ce qui se fait aussi aujourd'hui, parce que ben, l'agroforesterie, ça nous parle, on essaye d'en mettre. Disons, voilà, il y a plein de choses qui sont bonnes à prendre.
Donc, il y a vraiment cette conscience, en fait. Hein. Tu parlais de choisir donc nos comportements, remettre de la conscience au cœur de nos actes. Les chaussures en cuir, d'où elles viennent, qui les produit, quel est l'impact qu'on peut avoir. Cette notion de sens aussi qu'on retrouve dans l'essence de Théos. Et plus au-delà de ça, aujourd'hui, et beaucoup de gens ont pu se poser les questions sur le sens de leur vie. Est-ce que je suis, on parle de shit job, les métiers de merde, pour traduire en français, est-ce que je suis à ma place dans ce que je fais? Et beaucoup de gens sont en train d'essayer d'opérer cette transition, hein, de remettre un peu de sens dans leur vie, et puis beaucoup de jeunes trentenaires vont dans cette direction-là. Est-ce que vous observez aussi ça autour de vous, ce manque de sens, cette envie de remettre plus de sens et plus de conscience dans nos modes de vie?
On a beaucoup ce côté changement de vie de personnes ou de personnes qui se posent beaucoup de questions. Et c'est assez hallucinant le nombre de demandes de woofers et de stages qu'on a. Surtout dans la période de confinement. En fait, il y a eu beaucoup de messages où les gens se disaient « ben là, je me sens inutile » ou « je sens que mon métier, ben, en fait, il apporte pas grand-chose ». Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions et de remises en cause. Et donc c'est un peu sympa aussi ça, ce côté accueil des stagiaires et des woofers sur le lieu de la ferme, parce que il y a des personnes qui sont vraiment en recherche de sens dans leur vie, et donc nous on est là un petit peu pour leur montrer une façon de vivre et en même temps d'échanger avec eux sur la façon de voir la vie. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours, ce que je disais avant, avec des woofers, même après, parce qu'en fait, c'est un peu comme s'ils passaient ici et ça leur permettait, déjà, on est dans un endroit qui est calme, qui est posé, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... qui permet d'affiner leur réflexion et de se dire, en fait, c'est vrai que c'est chouette, ici, ils ont réussi à trouver leur sens, moi aussi, et donc on a eu des belles découvertes comme ça. Et après, en termes de... Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas s'oublier, quoi. Hein. Oui. Il y a des saisons où on travaille énormément. Après, on n'a jamais l'impression de travailler. Mais c'est vrai que ce matin, j'ai déjà fait de la liqueur d'aspérule. J'ai déjà fait 2h30 de désherbage. Mais en même temps, pour moi, c'est la vie, quoi. C'est pas du travail. C'est juste vivre avec ce qui se passe là tout de suite, quoi.
Et c'est intéressant aussi d'avoir tous ces mails de woofers ou de personnes qui te disent waouh, il y a vraiment du sens dans ce que vous faites. Ça permet de se rassurer aussi, de se rendre compte qu'on est au bon endroit, au bon moment, aligné, à la bonne place.
Ouais, c'est sûr, ouais. Et moi, j'avais envie d'aussi ajouter par rapport, on voit par le cercle de nos amis et la famille proche, qui sont quand même bien remis au jardinage, à faire attention, à aller voir plus proche de chez eux. Bah, on connaît du monde qui se sont dit tiens, la viande, ce serait peut-être intéressant d'aller directement au producteur, et donc il y a du lien social qui se crée parce qu'ils sont allés voir leurs voisins qui ont des vaches, et du coup ils ont directement récupéré leur viande de cette manière-là, et ils ont pris des poules, des choses comme ça. Enfin, je trouve ça intéressant, cette mouvance qui commence à se mettre en place pour des petites choses comme ça, avoir quelques légumes en plus qui viennent du jardin, des œufs frais qui viennent du poulailler. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y met. Enfin, en tout cas, tout récemment, ça m'a assez impressionné, ce côté-là.
Pour les urbains qui sont en train de réfléchir à leur transition, ou pour tous ceux d'ailleurs qui ont envie de remettre cette notion du sens, il existe, tu l'as dit, du woofing. J'aimerais qu'on revienne sur ce mot-là, expliquer un petit peu ce que c'est que le woofing. Donc, Willing Working on Organic Farm. Donc, c'est un concept, je crois, qui est né en Nouvelle-Zélande ou en Australie il y a quelques années. Mais j'aimerais que tu me le présentes et que tu expliques un peu le fonctionnement du woofing en France.
Alors, le woofing, en fait, ça... c'est vraiment un échange entre la personne qui va venir du coup sur un lieu, sur une ferme. Maintenant, il existe aussi des mêmes systèmes, d'ailleurs pas que sur des fermes, mais donc nous, le woofing, c'est plutôt vraiment sur des fermes. Et un accueil du coup de la ferme. Après, il y a plein de formes différentes aussi. Nous, moi, je vais parler de comment on fonctionne chez nous, parce que c'est ce qui sera plus parlant. Nous, on propose aux personnes donc, de les héberger gratuitement. Le midi, on fait à manger pour toutes les personnes qui sont là, parce que comme je disais, à la ferme, il y a autant des woofers, des stagiaires, des amis, la famille. Donc nous, on a décidé que le midi, on s'occupait de tout ça. Et après, par contre, le soir et le matin, on laisse à disposition des produits de base, et chacun a son petit coin, parce que comme on en accueille quand même sur une saison assez importante, et comme on fait quand même des grosses journées de travail, en fait, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir chacun aussi son petit coin séparément. Et puis les gens, en fait, ils arrivent ici dans un endroit un peu perdu dans la nature, et c'est aussi ce côté-là qu'ils viennent rechercher. Donc après, nous, on propose de nous aider sur toutes les tâches qu'on fait, donc c'est vraiment une découverte, et on fait quand même attention à ce que ça soit diversifié, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir, ils vont pas faire quand même du désherbage pendant une semaine, parce que c'est pas de la main-d'œuvre, c'est un échange de connaissances, de savoir-faire, et justement aussi de main-d'œuvre de l'autre côté, mais voilà, faut que ça soit cohérent. Et puis pour nous, c'est très important d'avoir une bonne ambiance dès la cueillette des plantes, parce qu'on travaille sur des produits qui jouent aussi sur l'énergétique, etc. Donc c'est important qu'il y ait une bonne ambiance. Et après, normalement, le woofer peut avoir aussi du temps pour aller découvrir les alentours, où il y a ce côté travail, et puis aussi il y en a qui vont travailler que le matin et qui vont être disponibles, avoir du temps libre l'après-midi. Nous, on le propose, mais en fait, les gens nous aident toute la journée, en général. Ils veulent pas aller voir ailleurs, donc c'est pas forcé, mais souvent, on se retrouve avec des personnes qui nous aident 1000 fois plus que ce qu'on aurait espéré, mais voilà, c'est de bonne volonté, en tout cas. Et après, voilà, c'est une convention, donc il faut quand même signer une charte, et si ça se passe pas bien, on est libre aussi d'arrêter la charte. C'est un peu plus souple qu'un stage, mais par contre, au niveau réglementaire, ça nous protège aussi, parce que en agriculture, le bénévolat est interdit. Et donc, si on veut pas avoir de soucis avec la MSA, parce qu'il y a quand même des contrôles qui sont fréquents, c'est une bonne façon d'échanger, et voilà.
Donc ici, l'activité économique, c'est cueillette, transformation, plantation.
Oui, en fait, c'est tout ce qui tourne autour des plantes médicinales et aromatiques. On fait à peu près toutes les transformations qui est possible de faire. Donc ça va du côté alimentaire aux tisanes, sirops, au côté un peu plus cosmétique, des huiles pour le visage, des huiles de massage. Après, on est passionné de distillation, donc on fait de l'eau florale, des huiles essentielles. Et notre cœur de métier, là, on commence à être assez reconnu, c'est qu'on fait des compléments alimentaires. Donc là, c'est des produits un peu plus ciblés. On contracte les bourgeons pour faire de la gémothérapie et des alcoolatures qui sont des teintures mères. Donc là, un peu plus sur le soin par les plantes.
Et comment est-ce que vous valorisez tout ça? Comment est-ce que vous diffusez vos productions?
Alors, on a plusieurs moyens. On a notre petite boutique en ligne, donc on a un site internet. Après, on travaille aussi avec des magasins bio. On a un petit réseau. Et après, on fait encore beaucoup de foires et de marchés, mais c'est plutôt sur des événements. On ne va pas sur des marchés quotidiens, parce qu'on n'a pas des produits d'utilisation de tous les jours, mais par contre, des grandes foires, des foires bio, des salons bien-être, ce genre de choses, pour essayer de se faire, de rayonner un peu partout dans toute la France ou même à l'international. Et comme on a la boutique en ligne, souvent, on a beaucoup de personnes qui reviennent.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
Dans le réseau des oasis ou des habitats participatifs, il y a souvent cette notion du collectif. Donc pour l'instant, le collectif, il est tout petit chez vous. Vous êtes à deux, plus tous les gens de passage. On parle des stagiaires, on parle des woofers. Mais éventuellement, cette dynamique du collectif est quelque chose qui est potentiellement possible aussi. Vous verriez faire grandir le site, vous associer à d'autres personnes, et puis pour pouvoir accueillir plus de monde.
Alors, c'est en pleine réflexion, parce que à la fois, on a envie de faire plein de choses, et donc voilà, on n'est que deux. Disons deux plus toutes les petites mains, parce qu'il y a énormément de passages, et on a quand même un gros réseau de personnes qui nous soutiennent. Donc c'est un collectif très élargi, mais je veux dire, quand on va faire une cueillette où en fait on a besoin d'être 10 cueilleurs, finalement on les trouve très facilement, quoi, et ça va au-delà de juste cueillir. Mais après, on veut pas que ça devienne trop gros non plus. On a envie que ça reste une petite ferme familiale et pas se laisser prendre par le côté économique et gestion de la paperasse et tout ça. On veut pas, qu'on veut rester justement une petite ferme simple. Et donc voilà, c'est un peu, il faut poser le pour et le contre et voir aussi, si on associe, on prend des associés, est-ce qu'on partage l'activité ou est-ce qu'on crée une autre activité? Voilà, il y a plein de questions autour de ça.
Est-ce que le fait d'être dans le mouvement Oasis, quand on va sur la carte, il y a une carte qu'on retrouve sur Internet, est-ce qu'il y a quelque chose, une reliance, est-ce qu'il y a une aide, un soutien, est-ce que ça apporte quelque chose?
Pour l'instant, nous, il nous manque du temps pour s'investir plus dans le réseau. C'est pas un manque de volonté, mais c'est vraiment que nous-mêmes, notre temps libre est très très restreint. Donc après, c'est un réel soutien où, quand on se pose des questions. Donc nous, on est passé par un financement avec les Oasis, et du coup, c'est bien aussi d'avoir un point de vue extérieur, parce que en fait, on va faire des choix, mais des fois, on est tellement tête dans le guidon que de pouvoir échanger avec d'autres personnes ou justement une structure qui va nous dire « Ah oui, mais là, faites attention, en effet, parce que si vous allez trop dans cette direction, c'est peut-être dangereux. » Ou en fait, nous, il nous manque des fois de la prise de recul, et je trouve que le réseau Oasis nous l'apporte, et, ou en tout cas, nous met des petits holà sur des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention, et nous donne des personnes avec qui on peut échanger, qui ont eu soit des mêmes difficultés, ou voilà, ça permet en fait d'avoir une solution des fois quand en fait on ne sait plus par où prendre le problème, quoi.
Alors, en parlant de problème, est-ce que tu aurais des conseils ou des clés à donner pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans un projet similaire au vôtre, un projet de maraîchage, un projet de plantation de plantes médicinales, ou un projet en lien avec le vivant?
Faut déjà avoir une bonne dose de courage. Il y a le rêve et il y a l'envie, quoi, qui... Ouais, j'ai envie de dire, comme conseil, du courage, parce que là, il y a le côté administratif sur lequel on pense pas forcément. Et après...
C'est sûr qu'en fait, il faut avoir un rêve dans la tête. Il faut quand même arriver à s'y tenir. Mais il faut pas avoir le rêve trop grand. Et parce que il y a des jours où c'est magnifique, et il y a des jours où c'est pas tous les jours facile, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer. Il faut mieux voir petit et grandir petit à petit que voir trop gros et du coup en fait être découragé. Et on a une, ouais, la société est pas encore, c'est en train d'évoluer, mais c'est pas forcément fait pour ce type de structure. Donc c'est un peu toujours la bataille au début, mais après dès qu'on réussit, ben en même temps c'est une sacrée victoire et donc il faut être content de ce qu'on vit tous les jours, quoi. Avancer par petits pas.
Avant, tu parlais de la vie simple. On va peut-être terminer sur cette phrase de Gandhi. Il y en a deux qui sont chouettes et qui reviennent. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre.
Ouais. Bah, c'est réellement le fond de notre pensée et l'éthique du coup qu'on s'est mis, qu'on s'est un peu entre guillemets chargé sur les épaules, mais c'est petit à petit, c'est...
Vivre simplement, c'est pas si facile, parce que des fois, ben, vivre de façon compliquée, en fait, tout est fait pour vivre de façon compliquée. Et vivre simplement, ben, en fait, c'est se donner la peine de le faire.
Il faut donner cette étincelle pour avoir la simplicité. Il y a peut-être un travail à faire au début, lancer la machine, et après, tout se déroule, hein, en fait, on se rend compte petit à petit des choses qu'il y a à mettre en place pour se faciliter la vie et justement accéder à cette simplicité. Mais il y a un petit travail à faire parce qu'on est tous un peu, je pense, coincés dans ce système dans lequel on a toujours vécu, quoi. Et dès qu'on veut changer et passer à autre chose, et bah, c'est là où il faut presque tout réapprendre, en fait.
Donc, ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves, mais pas construire des rêves trop grands.
Ouais, c'est un bon résumé.
Merci à tous les deux. Dans ce podcast La Voix des Oasis, nous étions au Sens de Théus, en présence de Pauline et Jean-Pascal, qui incarnent tous les deux une démarche en cohérence avec le respect du vivant.
La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.